premières questions, je vais toutes te les lire et ensuite je vous laisserai, Monsieur Lacorte, choisir l'ordre de réponse à ces questions. Première question anonyme. On nous annonce l'arrivée de l'A220, moins polluant chez Air France. Pourquoi évoquer des avions plus gros chez Transavia? Deuxième question de Jérémy Saudray. Pourquoi vous êtes-vous focalisé sur les phases d'atterrissage alors que les phases de décollage sont bien plus bruyantes? Entre parenthèses, le fait que les moteurs soient à fond et qu'il y a un sifflement des réacteurs. Voilà. Deuxième question. Une autre question anonyme. Pourquoi ne pas modifier la pente à 3,5 degrés lorsque l'on utilise l'approche désaxée? Et enfin, dernière question anonyme. Ne peut-on pas envisager d'utiliser la nouvelle approche, même par beau temps, et répartir les nuisances pour ne pas toujours faire subir la peine maximale aux mêmes habitants quand la météo est favorable? Donc, une question sur la double approche.
Merci. Alors, je pense qu'il y a des questions peut-être qui s'adressent, enfin, pour lesquelles je laisserai répondre mes collègues, notamment sur la pente d'approche. Je propose que ce soit mon collègue Sylvain Ric qui réponde sur ce sujet. Sylvain Ric, donc, qui est le chef du service de navigation aérienne. Et puis, sur les modules et l'Airbus 220, je laisserai mon collègue Kevin Guité répondre. Alors, sur les autres questions, pourquoi vous êtes-vous focalisé sur les phases d'atterrissage alors que les phases de décollage sont plus bruyantes? Effectivement, alors, sur les phases de décollage, surtout lorsqu'on regarde les décollages face au nord, les avions passent au-dessus de zones très urbanisées. Il nous a semblé qu'il y avait, nous semble-t-il, donc pas de possibilité d'améliorer les trajectoires actuelles de décollage pour éviter des zones qui sont urbanisées, tout en survolant des zones qui ne le seraient pas. Et pourquoi cette équation-là? Eh bien, tout simplement parce que c'est une attente de l'ensemble des participants à la concertation de 2019 qui nous avait dit ce qu'on souhaite, c'est que les mesures de protection et d'une certaine manière aussi les nuisances soient réparties de manière aussi équitable que possible entre l'ensemble des territoires. On ne souhaite pas jouer un territoire contre un autre. On ne souhaite pas que des personnes qui aujourd'hui ne sont pas exposées à des nuisances le soient demain. Et donc, pour cette raison, il ne nous a pas semblé possible de pouvoir modifier les trajectoires de décollage face au nord. Alors, en revanche, pour les décollages face au sud, c'est la mesure que je vous présentais tout à l'heure, hein, qui est en cours de discussion, notamment avec les élus, et qui permettrait d'éviter le survol de la Chevrolière. Aujourd'hui, là, on fait un travail justement sur les trajectoires au décollage, sur cette trajectoire-là. Et comme je vous l'indiquais aussi, en fonction des résultats de ces études et des échanges que nous aurons avec l'ensemble des parties prenantes, si l'opportunité de cette modification est confirmée, à ce moment-là, on la réalisera, et après qu'elle aura été soumise, bien sûr, à une enquête publique. Alors, ensuite, il y a une question sur la double approche. Alors, ne peut-on pas envisager d'utiliser la nouvelle approche, même par beau temps, et répartir les nuisances? Je ne suis pas certain de comprendre complètement la question. En tout cas, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une trajectoire qui est désaxée et qui elle, évite quand même de passer au-dessus des zones les plus urbanisées, en particulier parce qu'elle elle est relativement proche de la Loire. C'était l'idée d'avoir cette courbe désaxée. Et donc, pour des raisons de sécurité, avec l'accroissement du trafic, il faudra avoir un système de guidage vertical des avions à l'atterrissage face au sud. Et donc, lorsque les conditions météorologiques sont dégradées, les avions puissent atterrir dans l'axe de la piste. Et donc, ces deux trajectoires seront utilisées l'une l'autre à peu près 50% du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir tout le flux d'avions à l'atterrissage face au sud au-dessus d'une seule trajectoire comme aujourd'hui, ce sera un peu réparti entre deux trajectoires. Alors bien sûr, ça implique de survoler des populations qui aujourd'hui ne le sont pas, mais celles-ci seront survolées avec des pentes relevées à 3,5 degrés, donc ce qui permet une altitude de survol assez élevée et donc de limiter, en tout cas de maîtriser l'évolution du bruit. J'espère que ça répond à la question qui a été posée par cette personne. Et je vous propose maintenant de passer la parole à mon collègue Kevin Guittet sur la question de l'Airbus.
Oui, merci Johan. Oui, en fait, c'est la flotte aujourd'hui, la flotte de Hop, elle est majoritairement composée d'avions de 70 à 100 places, hein, des Embraer et des CRJ. Et on va transférer ces vols-là sur des avions de Transavia qui est quasiment que des Boeing 737-800, avec là une capacité qui peut aller jusqu'à 180 sièges. Donc, voilà, c'est indépendant de l'arrivée des A220, des Airbus A220, qui eux-mêmes d'ailleurs ont des capacités qui sont quand même déjà supérieures à celles des Embraer, puisque là on parle dans les dans de 120 ou 140 sièges selon le modèle dans des configurations standards. Voilà.
Merci beaucoup, Gavin. Et Sylvain Ric, pour la dernière question. Alors, si on n'a pas de problème de connexion.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvain Ric, je suis le chef du service navigation aérienne Ouest, donc qui couvre en particulier la tour de contrôle de Nantes-Atlantique. Donc, sur cette question, en fait, nous avons étudié une trajectoire désaxée avec une pente de 3,3 degrés, en fait, dans la mesure, et cela pour des raisons de cohérence lorsque les avions vont atterrir en vraiment courte finale, très proche de l'aéroport. Ils utilisent un moyen de visualisation sur le fait qui leur indique s'ils sont sur une bonne pente, vraiment très proche de la piste. Et ce moyen de radionavigation, ce moyen d'identification de leur position dans le plan vertical est commun à la procédure accès et désaccès, c'est ce qu'on appelle un PAPI. Et pour raison de cohérence, nous partons sur une pente à 3,3 degrés sur la procédure désaccès. Voilà.
Merci Sylvain. Alors Maxime, je comprends qu'il y
Oui,
avait des questions.
nous allons prendre. Sauf si vous avez des compléments à ajouter, monsieur Lacorte, mais nous allons prendre les questions. Il y a trois mains levées, sinon.
Très bien, merci.
Alors, monsieur Ivenaf, je vous laisse réactiver votre micro et vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Voilà, normalement, vous avez une. Voilà, parfait, vous avez activé votre micro. On vous écoute.
Bonjour à tous, je m'appelle Ivenaf et depuis 40 ans, j'habite dans l'axe de la piste 21 à 2,5 km. Donc, vous comprendrez mon souci sur les mesures de bruit qui vont être mises en place. Alors, à ce sujet, je me pose des questions parce que lors d'une réunion, une des premières réunions faites par la DGAC, j'ai rencontré une personne qui m'invitait fortement à utiliser le droit de délaissement compte tenu des nuisances que j'allais supporter, si vous voulez. Et dernièrement, je me suis inquiété de ce que devenait cette affaire, et c'est là que je me suis rendu compte, effectivement, qu'en conditionnant les aides avec des périodes données, si vous voulez, vous avez des dates à ne pas dépasser en ce qui concerne l'acquisition, les travaux et ainsi de suite, eh bien, ça supprimait beaucoup de monde. Alors, je n'ai pas de chance, moi, je n'ai droit à plus rien, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une surprise pour moi, hein, puisque il y a une hauteur de 25 mètres au-dessus de mon habitation, à peu près, c'est ce que j'ai estimé, et c'est tout ce que j'ai, hein, 25 mètres en plus, vous savez, un pilote, je ne pense pas que ça fasse bénéficier de beaucoup de décibels. Peut-être pourriez-vous me le dire. Alors, j'ai aussi une deuxième question, j'en profite si vous voulez,
Allez-y, allez-y.
et ça concerne la 21 des accès. Je constate qu'effectivement que 30% du trafic ne respecte pas du tout, enfin, pas du tout ou peu, si vous voulez, la trajectoire. Et souvent, ils s'approchent, voire même survolent mon habitation, alors que je suis un petit, comme je suis dans l'axe de la piste, je ne devrais pas l'être, puisque le point d'intersection se situe, je pense, à environ 2 km de l'entrée de piste. C'est correct ?
La distance exacte par rapport à l'entrée de piste, je ne l'ai pas en tête, monsieur, mais ça D'accord. doit être à peu près ça. Ouais.
Bon, donc, si vous voulez, à une certaine époque, je m'étais renseigné, et puis Nantes Métropole m'avait certifié que les contrôleurs suivaient attentivement les trajectoires et que tout non-respect des trajectoires était sanctionné. Enfin bref, on va pas s'étendre. Alors, je me pose la question, qui va contrôler ces trajectoires, puisqu'actuellement, bien sûr, vous avez les radars de surveillance, si vous voulez, qui vous permettent de voir ce qui se passe, mais comment se fait-il que d'aussi nombreuses personnes ne sont pas, si vous voulez, dans l'axe, et survolent presque, ils sont dans l'axe de la piste à 2,5 km où j'habite.
Merci, monsieur Neuf.
Merci, monsieur. Alors, donc, il y avait deux questions. La première sur la situation de votre maison par rapport au périmètre des aides, au périmètre du délaissement. Effectivement, le droit de délaissement peut être mis en œuvre à certaines conditions. Ce sont des conditions qui ont été fixées par la loi. Hein. C'est ce qu'a voulu le législateur. Ça a été validé par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et il ne m'appartient pas de commenter cela. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez, on pourra y revenir ensuite dans la deuxième partie de notre réunion de ce soir, vous avez sur le site internet du projet un petit outil de géolocalisation qui vous permet d'entrer l'adresse de votre maison et de vérifier où vous vous situez précisément par rapport à la zone de délaissement. Si vous êtes à l'intérieur, vous y avez droit. Si vous êtes à l'extérieur, effectivement, vous n'y avez pas le droit. En revanche, d'après ce que vous m'indiquez, comme vous semblez être quand même, si vous n'êtes pas dans la zone de bruit fort, puisque le délaissement, c'est en zone de bruit fort, mais que vous êtes en zone de bruit modéré, là aussi, selon les critères, il faut vérifier si vous remplissez ces critères, mais vous pouvez bénéficier d'une aide à la revente, ce qu'on appelait une aide à la revente, c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez vendre votre logement et que lors de cette session, on constate une moins-value liée au fait que l'aéroport est maintenu sur son site, et donc il y a du bruit et que ça joue à la baisse sur la valeur du bien, à ce moment-là, l'État compensera cette moins-value lors de la vente. Voilà, alors après, le délaissement et l'aide à la revente, c'est à peu près une cinquantaine de personnes éligibles pour le délaissement, et puis de mémoire, à peu près 1300, enfin pas personnes, mais biens, et 1300 biens éligibles à l'aide à la revente. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais vous indiquer. Je ne sais pas non plus si vous êtes éligible à une aide pour faire des travaux d'insonorisation sur votre logement. Ça, c'est un autre document c'est un autre dispositif, qui est ce qu'on appelle le plan de gêne sonore, qui est un dispositif de droit commun. Et à Nantes-Atlantique, il y a un plan qui a été qui date de 2003 et qui a été révisé récemment en 2009. Mais on y reviendra par la suite avec une présentation par la préfecture. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire sur le premier volet de votre question. Et sur le deuxième volet de votre question, finalement, si je vous comprends bien, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les avions voleraient selon des trajectoires qui ne sont pas celles qui sont en vigueur, ou en tout cas qui auraient des écarts. Alors, je ne sais pas comment expliquer cela, si vous voulez. Il peut y avoir un effet aussi de perception, parce que le trafic, maintenant, à un niveau très bas par rapport à celui d'avant la crise, et que comme il reprend progressivement, il peut y avoir aussi des effets de perception de ce qu'on avait en tête d'une situation avant la crise et de ce qu'elle redevient progressivement. Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2014, les trajectoires des avions à Nantes-Atlantique, elles n'ont pas été modifiées. Et vous l'avez vu, je l'ai indiqué tout à l'heure, le processus qui permet de modifier une trajectoire d'avion, c'est un processus qui est long, qui est très encadré par la réglementation, qui nécessite des enquêtes publiques. Et donc, s'il est l'État avait modifié les trajectoires entre 2014 et aujourd'hui, nécessairement, le public et les parties prenantes en auraient été informés. Donc, ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu de modification des trajectoires. Après, il peut y avoir des écarts par rapport aux trajectoires publiées, des écarts liés à tel ou tel pilotage d'avion un jour donné. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on a l'autorité de surveillance de la sécurité de l'aviation civile qui peut être alertée et qui, lorsqu'il y a des manquements qu'elle constate, des manquements par rapport aux trajectoires, à ce moment-là, elle défère le dossier à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, que vous connaissez peut-être. Et la CNUSA, elle, dispose d'un pouvoir de sanction. Donc la CNUSA, en fonction du manquement et de sa gravité, peut infliger une amende d'un montant qui peut atteindre jusqu'à 40 000 euros. 40 000 euros pour une compagnie aérienne, pour un seul vol et un seul manquement, c'est beaucoup. C'est bien plus que la marge qu'elle fait sur un vol, hein, et avec un facteur qu'on peut estimer entre 5 et 10. Donc, C'est vraiment une amende conséquente. Donc, c'est dissuasif. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer sur ce point.
Monsieur Lacorte, monsieur Rick lève la main, peut-être pour apporter un complément.
Oui.
Oui, oui, merci Maxime. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai compris que M. Hénaff habitait dans l'axe de piste, hein, au nord de la piste, à peu près à 2,5 km du seuil de piste. Et donc, effectivement, les avions qui viennent par la procédure des accès, hein, qui arrivent à l'atterrissage par la procédure des accès, ont une marge de tolérance, hein, entre 2 et 4. Il y a une plage d'interception de l'axe de piste qui est entre 2 et 4 km du seuil de piste. Donc, effectivement, ça peut aussi expliquer qu'ils constatent certaines variations.
D'accord. Merci beaucoup.
On va pouvoir prendre une autre question. Je vais en passer la parole à Mme Blandine Forget. Je vous laisserai activer votre micro, vous présenter et poser votre question, Madame Forget. Allez-y, Madame. Votre micro est activé, on vous écoute. Le micro est activé, mais on ne vous entend pas. Bon, on va passer à une autre question et on vous redonne la parole juste après. Donc, à une question de Marc Vollmer. Monsieur Vollmer, on vous laisse activer votre micro. Monsieur Vollmer, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Marc Vollmer. Je suis moi-même pilote, mais pilote privé. Donc, j'utilise des petits avions, pas des gros. Moi, je voudrais revenir sur vos chiffres de prévision d'habitants survolés et subissant les nuisances sonores. Déjà, il aurait été intéressant non seulement de faire une comparaison pour 2040, sans changement d'infrastructure et avec changement d'infrastructure, déjà de mettre le niveau d'habitants survolés par rapport notamment au trafic 2018 ou 2019, pour avoir un petit peu un recul. Bon, bref, si on compare votre modèle 2040 sans changement d'infrastructure, on arrive à un total d'habitants de la métropole survolés et subissant les nuisances de 73 200 habitants, dont environ 10 000 subissant du bruit modéré ou du bruit fort. Voilà un premier chiffre. Si on compare ce chiffre à votre prévision 2040 avec les changements d'infrastructure, on arrive à un total d'habitants survolés et subissant les nuisances sonores à 47 400. Bon, c'est une diminution, si elle est réalisée, effectivement, qui est notoire. Par contre, si on compare les habitants subissant un bruit modéré et un bruit fort, il n'y a pratiquement pas de changement, puisqu'on passe de 9500 à 8800. Est-ce que c'est acceptable, pour la population concernée? Voilà ma question.
Merci, monsieur, pour, Oui, mon micro est allumé. Merci, monsieur, pour votre question. Alors, déjà, je vous remercie parce que les chiffres que vous avez indiqués sont parfaitement restitués. Et donc, effectivement, hein, en situation de référence à l'horizon 2040, c'est-à-dire sans réalisation du projet, on aurait 73 200 personnes exposées à un niveau de bruit de 50 décibels ou plus, et dont à peu près 9 500 à du bruit modéré ou fort. Et donc, en situation avec projet, au total, on aurait 47 400 personnes exposées à du bruit faible à fort. Donc, comme vous l'indiquez, effectivement, on a une baisse significative, à peu près 26 000 personnes qui sortiraient de cette zone d'exposition au bruit. Et donc, ce chiffre-là, moi, je pense qu'il est quand même important parce qu'il traduit de manière quantitative les effets de l'ensemble des mesures que nous avons prévues pour lutter contre le bruit. Après, évidemment, il y a la question que vous posez, des personnes qui restent néanmoins exposées à du bruit, soit modéré, soit fort. Et c'est bien pour traiter le cas des situations de ces personnes-là, de ces habitants-là, que nous avons prévu tout un dispositif d'accompagnement avec des aides aux riverains. Il en existe dans le droit commun, je l'indiquais tout à l'heure, et des aides inédites qui ont été mises spécifiquement en place pour Nantes-Atlantique, de façon à proposer des solutions aux personnes qui restent soit en zone de bruit fort, soit en zone de bruit modéré. Mais je vous propose du coup qu'on traite cela, si nécessaire, qu'on revienne sur ce sujet après la deuxième partie de notre réunion, puisqu'on aura eu l'occasion à ce moment-là de vous présenter de manière plus précise les grandes lignes, ce que je viens de vous indiquer dans les grandes lignes.
Très bien, merci monsieur Accord. On va essayer de reprendre la question de Madame Blandine Forget. Madame Forget, on vous écoute. On espère que ça marche.
Parfait. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Superbe. Merci. Bonsoir. J'ai un problème un peu mathématique pour Monsieur Lacorte. En 2019, nous avons eu 62 300 mouvements pour 7,2 millions de passagers. Vos prévisions, là, que vous venez de nous proposer pour 2040, c'est 77 300 mouvements pour 10,7 millions de passagers. Si on fait les soustractions, en fait, on va avoir 15 000 mouvements supplémentaires en 2040 par rapport à ce que nous avons eu en 2019 pour 3,5 millions de passagers. Ce qui veut dire qu'en gros, si on divise, on a un emport moyen par avion en moyenne de 233 passagers. Or, en regardant les éléments que nous avions eus lors de la concertation en 2019, sur les documents fournis lors de cette concertation, il y a une étude complémentaire sur les hypothèses de trafic à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Je parle du rapport final qui était du 19 juillet 2019, qui avait été fait par la société TRT, qui est une société italienne qui avait été mandatée par la CNDP, justement pour nous apporter des éléments lors de cette concertation. Quand on regarde à la page, je crois que c'est 8 du document, où on parle justement des emports moyens actuels, c'est-à-dire en 2018, parce qu'il n'y avait pas encore les chiffres de 2019, je vois qu'on trouve un emport maximum dans les mois, on va dire, de mai, juin, juillet, de 130 à peu près. Alors, comment on va faire pour mettre 233 personnes si l'emport actuel était de, on va dire, 130, alors qu'on ne va pas avoir d'avion supplémentaire plus gros, comme vous nous avez certifié qu'il n'y aura pas d'avion plus gros. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, que je n'ai pas compris, et ce qui est fort possible ? Est-ce que vous êtes en capacité de me donner une explication là-dessus ?
Oui, bien sûr, madame. Ce n'est pas moi qui vais vous la donner, c'est mon collègue Kevin Guitec, qui est vraiment notre spécialiste des prévisions de trafic. Mais avant de lui passer la parole, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de plus gros avions, je disais simplement que la piste de Nantes-Atlantique, si on l'allonge, ce n'est pas pour permettre d'accueillir des porteurs plus gros que ceux qui aujourd'hui opèrent à Nantes-Atlantique. Voilà. Puisque la question s'était posée d'accueillir de très gros porteurs à un moment donné, hein, ça a pu être envisagé dans l'espace public à Nantes-Atlantique. L'allongement de la piste ne le permet pas, il ne le permettra pas de toute façon, parce que la longueur de piste disponible à l'atterrissage, compte tenu du fait qu'on décale le seuil au nord, restera le strict minimum nécessaire pour l'atterrissage des avions en toute sécurité. Mais donc ça, c'est voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur cette notion de on ne pourra pas accueillir de plus gros avions, ça n'empêche pas qu'il y ait des évolutions de l'emport. Et là-dessus, je passe la parole à mon collègue Kevin Guittet.
Merci, Yoann. Bonsoir, madame. En fait, le problème, c'est que dans votre calcul, vous faites une soustraction et donc vous regardez l'évolution des passagers. Vous faites comme si les passagers étaient transportés par des avions nouveaux, comme si la flotte qui opère actuellement sur l'aéroport était figée et que tout le trafic supplémentaire venait d'avions nouveaux, mais en figeant la structure de la flotte existante. Or, c'est la structure de toute la flotte qui va évoluer et l'emport moyen de toute la flotte qui va évoluer. Et donc, il faut calculer l'emport moyen sur les trafics totaux et non pas sur le différentiel de trafic. Et là, vous allez retrouver des chiffres qui sont d'un ordre de grandeur tout à fait comparable avec ce qu'avait obtenu TRT, qui d'ailleurs, dans sa contre-expertise, a été plutôt... était plutôt positif sur les prévisions de la DGAC à l'époque. Merci.
Merci pour ces réponses. Je vous propose peut-être de passer à la peut-être, séquence pardon. Numéro 2. Allez-y, monsieur Lacorte.
Du coup, si je ne me trompe pas, on doit avoir un emport moyen à l'horizon 2040 qui doit être autour de 130, finalement. C'est bien ça.
Il faudra que je fasse la division.
En tout cas, voilà, je pense que pour répondre à madame, on est autour de 130 à l'horizon 2040, ce qui est cohérent avec ce que vous indiquiez, madame, fin de l'étude de TRT qui effectivement avait été réalisée lors de la concertation à la demande des deux garantes. Voilà.